Nous prenons ensuite le bateau pour se rendre à Kitsizagik, dans l'ancien site ancestral où Monique, en compagnie des siens, a passé tous ses étés. Elle nous dresse un portrait du lieu où elle a grandi et où, depuis la nuit des temps, sa communauté vient se ressourcer.
Je m'appelle Monique Anishinaabeopapatti. Présentement, je suis à Kitsizagik, dans l'ancien site ancestral. Je passe mes étés ici. À chaque été, je viens ici parce que c'est ici que j'ai grandi. C'est ici que ma mère a vécu. Moi, je suis une enseignante retraitée. J'ai enseigné pendant 29 ans. J'ai été directeur d'école 2 ans. J'ai enseigné de première à cinquième année en français. Ensuite, j'ai enseigné au préscolaire maternel la langue. Puis de première à cinquième année, la langue maternelle, l'algonquin. J'ai aussi été une famille d'accueil, comme tout le monde, pour les enfants. J'ai travaillé au conseil comme secrétaire. Ça fait des années de ça. Ensuite, ben là, j'étais à l'école, moi aussi, au pensionnat. Moi, j'étais 10 ans au pensionnat à Saint-Marc-de-Figuéré. Puis j'ai continué mes études à l'Institut de l'Assomption à Amos, dont j'étais pensionnaire dans une famille d'accueil pour le secondaire. Ensuite, je suis allée étudier à Chicoutimi pour être enseignante. Et après ça, ben, je suis allée au marché du travail pour enseigner aux enfants de ma communauté au Lac Simon. Je suis une personne qui vit au Lac Simon. J'ai ma maison là-bas. Mais à chaque été, je suis rendue à Kitsizagik. Si vous me cherchez, je suis à Kitsizagik.
Mais dites-nous, on nous a dit que vous étiez l'encyclopédie, le savoir de la communauté. Pourquoi cet endroit ici est tellement significatif? Je sais qu'il y a une église, c'est la première, n'est-ce pas?
Ma mère y a vécu ici, mon grand-père y a vécu ici. Puis toute l'historique, là, je l'ai pas mal appris de ma mère, qui est parti à l'âge de 98 ans. Parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de recherches avec elle. J'ai posé des questions. J'ai demandé c'est quoi ça, comment ça se fait que c'est ça. Ma mère m'a tout conté. Elle m'a conté plein de choses sur l'historique de Kitsizagik. Au début, il y avait la compagnie de la baie du Tson ici. C'est eux autres qui étaient les premiers ici. Avec la construction de l'église, qui a été bâti par les Algonquins qui étaient ici. Ils n'ont pas été payés pour la construire. Ils l'ont construit bénévolement. Et ça l'a resté ici. Puis à chaque année, les gens ils revenaient ici pour célébrer soit des mariages, des baptêmes.
Donc, si j'ai bien compris, c'est la première église en Abitibi-Témiscamingue.
C'est la première église en Abitibi parce que c'est la plus vieille. Elle a 156 ans. C'est la première église ici. Et ça a été aussi le premier magasin de la baie du Tson qu'il y avait ici.
Qui vendait, j'imagine, la fourrure.
Oui, ils vendaient de la fourrure. Et on achetait aussi l'épicerie là-dedans. Les gens qui vivaient dans les territoires de Trappe, ils venaient magasiner ici. Mm-hmm. Pour s'approvisionner en nourriture, en alimentation. Puis les femmes aussi, ils venaient ici acheter du tissu pour faire leur jupe, leur robe. C'était le central, ça, ici.
Ah oui, donc c'était comme un carrefour d'échange de biens.
Oui, c'est ça. Puis, il y avait aussi un dispensaire qui appelle, là, un petit centre pour un genre de petite clinique, là. Ça aussi, ça, c'était déjà ici, ça existait déjà.
Donc, c'est un lieu très significatif, très important pour très la communauté.
Oui, c'est pour ça que moi, je viens ici, parce que cette place-là, ici, il y a beaucoup d'histoires. C'est sûr, il y a des histoires qui sont tristes, mais il y a aussi des histoires que c'est le fun d'entendre.
De belles histoires.
Oui, avec les aînés. C'est surtout les aînés, dans les dernières années, qui ont vécu ici. Et c'est de là que j'ai appris beaucoup de choses, en allant les visiter le soir dans leur petit cabanon, là. On s'assoit là, puis sur la galerie, puis là, on jase.
Et vous racontez des histoires. C'est comme une transmission.
Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que les aînés disaient, il n'y en a pas d'autres qui vont s'en venir ici. C'est pas mal la seule qui vient ici. Fait qu'ils disent, tout ce qu'on peut te dire, on va te conter des histoires, nos vécus à nous autres. Fait que,
puis vous les racontez aux jeunes.
Je les raconte aux jeunes. Parce que des fois, les jeunes, il faut leur conter des choses pour essayer de leur remonter des fois, parce que des fois, ils sont bien down, comme on dit, là, ça ne leur tente pas de rien faire, tout ça. Alors, je leur conte l'histoire de trappe, des aînés, comment ils marchaient des kilomètres puis des kilomètres pour aller, pour se nourrir, là. Puis aujourd'hui, les jeunes, il y a de la facilité ici, là.
Mm-hmm.
Tu sais, même au village, là, ils n'ont plus ce problème-là d'aller marcher bien loin pour aller chercher de la viande, de castor, d'orignal, un peu de toute la perdrix. Mais les jeunes, ils connaissent pas ça. Ils savent pas comment ça a été dur autrefois. Moi, souvent, j'ai des petits-enfants de ma soeur. Je leur conte toute l'histoire de leur arrière-grand-mère, comment elle a vécu.
Et qu'est-ce qu'ils disent?
Ouais,
ça les impressionne,
ouais,
les jeunes?
Ouais. Parce que nous autres, moi puis ma famille, moi, ma soeur, on n'était pas beaucoup, on était 6. Et mon papa, nous autres, on a perdu notre papa à l'âge très jeune, 3 ans puis 2 ans. Fait que c'est maman qui a fait le papa et la maman.
Ouais.
Et c'est elle qui apportait aussi de la nourriture. Elle pouvait faire de la chasse un peu, mais au petit gibier. Ça leur arrivait qu'il y a des veuves qui se mettaient en gaine, là, puis s'en allaient à la chasse à l'orignal. Ça, c'était le fun. Quand je les écoute parler, les coucoums, là, les grand-mères, là, ils me comptent comment ils ont chassé l'orignal, tout ça. Comment ils collaient, les autres ils sont aussi. Ils disent, on est aussi bons, on était aussi bons que les autres.
Mais j'en doute pas. Quand vous avez commencé, vous avez parlé des pensionnats. Là, aujourd'hui, tout le monde parle des pensionnats parce que malheureusement, c'est une triste nouvelle dans l'actualité. Quel est votre rapport?
Disons que moi, j'étais au pensionnat. Je n'ai pas vécu des abus. Je n'ai pas vécu ça, moi. Ce que j'ai vécu, c'est de la violence, des coups de règle, pas dormir de la nuit, se mettre à genoux dans le corridor toute la nuit. Parce que j'avais fait des coups, des méchants coups, moi, comme tous les enfants en font, là.
Mm-hmm.
Mais j'ai pas eu des grosses affaires. Qu'est-ce que je pense des enfants qui ont été trouvés? Ça me fait de quoi?
C'est sûr.
Parce que justement, moi, j'ai pas passé par là. Ça me fait de quoi pareil, là, parce que c'est ça, mes frères et soeurs, mm-hmm, qui ont été retrouvés. Puis
Puis je pense qu'ils vont retrouver de plus en plus.
Oui, de plus en plus, je pense.
Malheureusement.
Oui. J'espère qu'ils vont aller fouiller dans notre pensionnat, nous autres, là.
Ben,
j'ai
pensez...
pas eu connaissance de ça, moi, qu'il y avait quelqu'un qui était décédé là-bas, là.
Mais est-ce que vous avez entendu parler, à un moment donné, quelqu'un qui disparaît ou...
Non, okay. pas dans le pensionnat où j'étais. Mais on a eu des décès. Mais c'était des maladies.
Mm-hmm.
Des maladies, puis ils avaient été rapatriés chez leurs parents. Ceux que je connais, là. Mm-hmm. Peut-être qu'il y en a eu que moi, je suis pas au courant, parce que après qu'on est parti, peut-être, mais mm-hmm, je sais que moi, quand j'étais là-bas, là, je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui avait été... Mais j'ai vu, par exemple, beaucoup de violence faite à mes sœurs qui étaient là.
Et comment vous expliquez? Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. C'est ce que... On ne va pas dire que c'est l'Église qui a fait ça, c'est certains individus. Puis en même temps, vous êtes quand même très proche de la foi chrétienne et vous la célébrez, vous êtes fiers. Il y a des baptêmes, qui sacrements qui se font encore ici.
Disons que moi, comment quand je vois ça, c'est vrai qu'il y a eu du monde tellement méchant, là, autrefois. Mais si on regarde, c'est peut-être l'Église catholique, c'est aussi le gouvernement. Le gouvernement, ça, qui a commencé à faire les pensionnats. Je m'en souviens ici, qu'est-ce que ma mère me disait quand ils sont venus nous chercher l'autre bord là-bas. Ils sont venus chercher l'autre bord là-bas en autobus. Les autobus étaient orange.
Quand vous dites l'autre côté de...
Ouais, l'autre
Oui.
côté du lac où vous avez débarqué là. C'est là que l'autobus est arrivé un bonjour. Puis ils ont parlé à ma mère. Ils ont dit à ma mère, il faut qu'ils aillent à l'école, tes enfants. Il faut qu'ils apprennent. Puis il dit, à chaque mois, tu vas recevoir un chèque.
Ah oui.
Fait que là, ma mère, elle a cru ça. D'ailleurs, elle l'a jamais eu.
Elle a jamais eu de chèque.
Ah, jamais, jamais eu de chèque. Il dit,
Ah,
à la place, on va vous donner un chèque à chaque mois.
wow. Puis donc, elle était comme motivée parce que c'était économiquement
Oui,
difficile.
c'est ça, c'est ça. Elle était motivée à penser qu'elle allait avoir un chèque à chaque mois, mais elle n'a
Elle
jamais
a
rien
jamais... Ah,
reçu.
mon Dieu.
Puis il dit, quand les enfants ici partaient, c'était tellement triste, là.
Ah, j'imagine.
Les femmes, ils se ramassaient, ils s'asseyaient sur les galeries, puis là, ils jasaient. Puis là, leurs enfants, leur avaient été enlevés.
Oh mon
Il
Dieu.
dit que ma mère, il disait que c'est que les chiens aboyaient ici.
Ah.
Parce que les enfants, ils jouaient beaucoup. On jouait beaucoup avec nos chiens. Puis ici, on jouait à taille, là. Puis ma mère, elle disait, on vous attendait courir après votre départ. Plus rien.
Mon Dieu.
C'était tellement triste. Puis elle dit, les hommes, de leur côté, eux autres, ils se ramassaient en gang. Ils jouaient aux cartes. Mais c'était une façon à eux autres aussi de
D'oublier, de
ressentir, d'oublier,
ne
puis
pas y penser.
de ressentir aussi le vide ici qui se faisait.
Terrible. Puis vous aviez quel âge? Donc toutes vos sœurs sont parties, si je comprends bien, au
Oui,
pensionnat. C'est ça?
c'est
Puis
ça.
votre maman est restée toute seule.
Elle restait toute seule, ma maman. Je n'avais pas de papa, là, juste ma mère.
Puis vous aviez quel
Puis,
âge?
moi, j'avais à peu près 6 ans, puis ma sœur, elle avait 5 ans quand elle est partie. Même pas 5 ans. Elle devait avoir, en février, elle devait avoir 5 ans, puis elle est partie à l'automne, là. Elle devait avoir 4 ans et quelques, là. Puis, ça a été vraiment. Ma mère, il disait que c'était vraiment, vraiment triste, les femmes. Il y a des femmes, il dit, qui pleuraient. Surtout ceux qui avaient beaucoup d'enfants, là. Il dit, ça pleurait. Puis, il dit, moi, j'avais pas beaucoup d'enfants. Mes deux seuls enfants, ils étaient partis. Par contre, j'avais un frère qui avait été au pensionnat déjà quand nous autres, on est partis. Lui, il a conté à sa mère qu'il avait eu quelque chose d'abus là-bas.
Ah oui,
Ma
donc.
mère, elle l'a pas laissé partir. Il a resté, il n'a pas jamais retourné au pensionnat. Et c'est lui qui a été chef pendant 18 ans ici. Oui,
Intéressant,
il a
intéressant.
été 18 ans ici,
Mais
chef.
avant de partir, vous parliez en algonquin avec votre maman. Tout le monde parlait votre langue.
Tout le monde parlait la langue ici.
Et donc, vous partiez là-bas, c'était évidemment français, obligatoire. Donc, quand vous retourniez, est-ce que vous avez perdu la langue?
Pas vraiment, pas vraiment, parce que nous autres, là, on parlait la langue pareille dans la cour d'école. On s'en
OK.
allait à l'autre bout de l'école, là, puis
Vous
là, on
vous
se
cachez pour
parlait.
parler langue, c'est
Ouais,
génial.
ouais, ouais. On
Ça, c'est
continuait à parler
intelligent.
pareil. Mais surtout qu'on s'approchait de la porte, là, on parlait
Fini.
français.
Ah, ça c'est
Ouais,
intelligent.
pour parler français, là. Ça a été comme ça.
Donc c'est comme ça que vous avez en fait
Ouais,
sauvé la
quand
langue.
on a sauvé la langue comme ça. Puis en revenant ici, là, il n'y avait pas de radio, pas de télévision. La seule façon de communiquer, c'était en parlant avec nos parents. Fait que c'est comme ça que nous autres, on a sauvé la langue.
Ça c'est
Aujourd'hui, je parle
extraordinaire.
très bien ma langue, là, puis je vais le garder, puis j'essaie de le
Extraordinaire.
montrer aux enfants, là, comment on peut
Extraordinaire.
parler. Ouais.
Donc, c'est ce qui fait que le lien avec les parents n'était pas vraiment perdu parce que vous pouviez parler la
Ouais,
langue.
c'est ça.
Ça, c'est vraiment extraordinaire.
Puis quand on voulait faire des mauvais coups, mais là, on parlait en français. Faut pas que maman comprenne.
Ça, c'est l'autre côté de l'histoire.
L'autre côté de l'histoire. C'était pas méchant, là,
Non,
mais
non.
c'était des façons de... Quand on voulait jouer à taille bien longtemps, là. On disait, on va jouer à taille jusqu'à 11 heures.
Ah oui.
Fait que là, nos parents, ils savaient pas, les autres, c'était quoi, 11 heures, là. Fait que,
Ah oui.
on jouait à taille bien longtemps. Parce qu'ici, il y avait toujours un monsieur qui se promenait avec un petit bout de bois, là. Puis à 8 heures, là, il fallait faire dodo. Tout le monde chez eux. Il y avait quand même un certain règlement ici, là. On n'avait pas le droit de jouer bien longtemps. C'est par respect pour la nature, tout ça, là. On n'avait pas le droit de jouer bien longtemps. On jouait
Incroyable.
à taille, mais Fallait aller se coucher quand le monsieur faisait. Il passait dans tous les petits sentiers qu'il y a là, là. Puis là, il regardait en dessous du pont s'il y en avait de cachés.
J'adore.
Mais ça, c'est ça, ici, la vie qu'on a vécue ici. Puis quand on avait un étranger qui venait ici au Grand Lac, nos parents nous avertissaient. Vous leur comptez pas toutes. Normalement, je ne dois pas toutes vous compter.
Donc là, est-ce que vous êtes en train de tout me raconter ou non? Il y a des secrets?
Il y a des secrets encore.
Mais c'était genre, ils vous disaient, racontez pas tout par rapport à vos histoires traditionnelles?
À nos histoires, à nos vécus, au vécu de nos parents. Il faut respecter les autres aussi, là, parce qu'ils en ont vécu des choses, c'est ça, aussi. Et qu'il ne faut pas...
Comme qu'est-ce qu'ils ont vécu, oui, par rapport à la violence.
À la violence, à des abus, l'alcool, tout ça. Là. Mm-hmm. Puis, c'est des choses qui vont rester secrètes, c'est des histoires de même. Là.
Qui vont partir avec.
Oui, ils sont partis avec. La plupart des aînés sont partis avec.
Une question de respect.
Moi, je connais, là.
Comme une question de respect par rapport à leur mémoire.
Ben oui, c'est ça. Puis quand j'allais les écouter sur la galerie, là, ils me disaient, Monique, toi, je te fais confiance. Et toi, je vais te compter des affaires.
Ah oui.
Mais s'il y a une autre personne qui vient, c'est ça qu'ils me disaient. Okay.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la confiance? Qu'est-ce que vous faisiez de spécial?
Je leur disais, tu me fais confiance? Je leur disais, je les agaçais. Je disais... On a une radio, nous autres, là, c'est moi, je vais aller compter ça à la radio. Ah non, ils disent, ils n'auront pas compté ça. Il y avait vraiment une confiance.
C'est bien ça. Moi, en fait, j'ai vécu un peu l'exil, parce que je suis née en Europe, il y a eu la guerre, on est parti avec ma famille, tout ça. Et moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai rencontré Jacques, c'est qu'il m'a dit, ouais, tu sais, toi, tu es partie de ton pays, de ton continent, tu t'es enracinée ici, mais moi, je me sens exilée sur mon propre territoire.
Okay.
Ça m'a... En fait, c'était l'idée du projet. Je me suis dit, waouh, il faut vraiment voir c'est quoi les gens qui se sentent exilés sur leur propre territoire à cause de la colonisation et puis tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous sentez, vous, exilé ici?
Oui. Exilé, partir, moi?
Non, je veux dire, est-ce que vous sentez qu'on vous a arraché votre terre ancestrale et que vous essayez quand même de...
Au début, c'est comme ça que je me suis sentie. Quand j'ai commencé à travailler, puis à force d'enseigner les sciences humaines, là, j'ai commencé à raccommoder des affaires. Puis j'ai dit, là, moi, j'avais un territoire, grand-papa, il y avait un territoire, il faut que j'y retourne, il faut que je vive là-bas.
Quand on dit territoire, c'est ici, mais c'est aussi...
Ben, ici, c'est le territoire ancestral d'été, estival.
Mm-hmm.
C'est pas le territoire de trappe, tout ça, là. Parce qu'on a chacun un territoire de trappe familial.
Mm-hmm.
Puis mon grand-père, lui, c'est dans le bout de Val-d'Or, en haut de Val-d'Or. Mm-hmm. Mais j'y vois chaque année. Ça train d'initier ses arrière petits-enfants y aller. Ça va faire 2 ans qu'ils vont y aller. Là. Ils aiment ça.
Donc, c'est vraiment, ils se sentent sur leur territoire.
Oui.
En fait, ils se sont réappropriés.
Oui, c'est ça.
Qu'il y a eu un travail de réappropriation malgré la colonisation.
Oui, c'est passé. Ça. Puis, moi, ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a conté? Elle m'a conté pas mal les divisions de territoire. Ça appartient à qui? À tel. Ça, c'est à nous autres. On ne va pas plus loin. Ça, c'est pas à nous autres.
Mais ça, c'est verbal. C'est pas écrit.
C'est verbal. C'est toujours verbal. Mais, je dis verbal, mais quand on allait dans le bois, là, il me le disait. Tu vois la roche qui est là-bas, là? Il dit, tu déposes pas ça, là. C'est plus à toi d'aller le trapper là-bas. Le territoire d'une autre personne. Il y avait comme des...
Des no-dits, c'était pas écrit.
Oui, des indices, ouais.
Il n'y avait pas de frontières écrites.
Non. Puis quand vous parlez tout à l'heure de ceux qui sont décidés, là, je trouve que les gens qui ont fait ça, là, c'est vraiment du monde cruel.
C'est cruel, sûr.
Méchant pour faire ça. Là.
Génocide. Puis,
moi, je suis catholique. Je me sens pas comme visée dans ça. Parce que moi, j'ai ma façon de prier, j'ai ma façon de penser, puis je suis pas quelqu'un qui va faire du mal aux autres. Fait que je me sens pas visée pas la religion catholique, là, tu sais. Parce que c'est sûr qu'il y a du monde méchant un peu partout, que ce soit dans n'importe quelle religion, n'importe quelle catégorie de gens. Il y en a du monde qui sont méchants, puis il y en a d'autres qui sont bons. Mm-hmm. Moi, je vois ça comme ça. Mm-hmm. Mais je vais toujours continuer à pratiquer ma religion parce que mon père il enseignait la Bible, mon père à moi. Fait que moi, j'ai continué là-dedans. Là. Je fais des célébrations, tout ça. Là.
Puis est-ce que vous faites parfois comme une espèce de fusion ou de syncrétisme avec la spiritualité autochtone? Ou c'est vraiment le...
Ben, moi personnellement, mon grand-père à moi, il avait sa façon de prier. Mais ce n'était pas la même chose que ce qu'ils font aujourd'hui au niveau traditionnel. Ce n'était pas comme ça. Lui, sa façon, c'était, il allait au lac, proche de l'eau. Même en hiver, il faisait ça. Là, il parlait. Il parlait au Créateur. Après ça, il se lavait. Il se lavait. Il buvait de l'eau. Là, il venait de finir de prier. Mm-hmm. Sans faire le signe de la croix, là. C'était sa façon à lui de crier. Moi, je le fais des fois quand je suis dans le territoire ancestral. Je prie comme mon grand-papa le faisait.
En algonquin.
En algonquin, oui. Ouais,
parce que j'ai vu dans la petite église la Bible en algonquin. Est-ce la messe est célébrée en algonquin encore? Ou...
Non, c'est tout en français. Les curés qui étaient ici, déjà ils parlaient l'algonquin, mais lui, il n'est plus là. Moi, je le fais des fois en algonquin. Je traduis l'évangile en algonquin. Je fais mes lectures des fois en algonquin.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en algonquin? Juste pour que j'entende. Là. Peu importe, je veux juste entendre la langue.
Ça veut dire c'est plaisant aujourd'hui parce qu'il y a un petit vent.
C'est beau, c'est une belle langue.
Oui, le vent.
On m'a dit aussi que vous faites un sirop d'érable très spécial.
Oui, ça c'est... moi j'ai pris ma retraite en l'an 2007. Je l'ai pris à l'âge de 50 ans. J'ai 68 ans. Moi, à 50 ans, je me suis dit, moi, j'arrête à 50 ans. Je ne vivrai pas 50 autres années là, à enseigner. Là. Je vais vivre ma vie.
Je pense faire la même chose.
Oui. Je vais réapprendre qu'est-ce que j'ai perdu au pensionnat. Parce que j'avais perdu beaucoup. Je ne savais même pas comment faire un lièvre, castor, les jambes. Comment reconnaître la température. J'avais tout perdu ça, moi, les plantes médicinales. Je connaissais absolument rien. Alors, ça m'a pris un an complet en forêt. On s'en allait en ville seulement 3 jours, juste pour aller laver nos linges, puis l'épicerie, on repartait dans le bois. Un an après ma retraite, j'ai fait ça. Puis ma mère était encore vivante, puis ma belle-sœur. On était 3 femmes. Et c'est eux autres qui m'ont tout enseigné. Puis le sirop d'érable, c'est ma belle-sœur qui me l'enseignait parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis je l'ai appris avec elle. J'ai monté au sirop, au camp de sucre avec elle. Puis là, elle me disait qu'on fait. Là, tu vois, là, il n'est pas cuit encore. Tu sais, quand est-ce qu'on va le mettre sur la neige, tout ça. Là. Quelle sorte de bois prendre. Et toute la spiritualité aussi qui va avec ça. Parce qu'il y a quand même une forme de spiritualité avec le sirop d'érable.
Qui est reliée à la racine, à l'arbre, c'est quel genre de spirituel?
C'est à l'arbre avec le feu. Parce que quand on fait le feu, là, je dis tout le temps aux jeunes, ne jetez rien dans le feu. Ce feu-là, c'est sacré. Parce que c'est le feu qui va nous donner qu'est-ce qu'on veut avoir. Alors, il faut le ménager, il faut faire bien attention, il faut le respecter. Puis les jeunes ont toujours respecté ça.
Mm-hmm.
Ouais. Puis il y a aussi le... Les jeunes aussi, ils ont appris aussi à pas jeter le sirop d'érable. Quand il restait de la tire, ils ne jetaient pas à terre. Il fallait qu'ils le mettent au bord du feu. Même les palettes, là, le jeter dans le feu. Ça va tout avec l'ensemble qu'il y a pour faire du sirop d'érable.
C'est comme un rituel, en fait. C'est comme un rituel.
Non, comme un rituel, c'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis Adèle me disait que vous faisiez comme des bonbons médicinaux, c'est ça?
Oui, c'est, ça fait comme des bonbons, là, c'est de la tire, là. Les jeunes et les chats, là.
C'est tellement plus merveilleux pour la santé que toutes les cochonneries qu'on peut trouver chez le dépanneur.
Puis avant de, avant de faire le sirop d'érable, je parle toujours aux arbres. Je leur parle à eux autres. Et je leur demande de me donner qu'est-ce que je viens chercher. Puis je leur dis que je les remercie aussi pour tout ce qu'ils vont me donner. Puis je leur dis aussi que de continuer à pousser, à vivre eux autres aussi, pour continuer notre tradition. Moi, c'est comme ça que je faisais avec un arbre quand j'y parlais.
C'est magnifique. Puis j'imagine que vous faites la même chose avec les animaux. Quand vous sacrifiez un animal, ça doit être le même rapport, non?
Oui, oui.
C'est tellement beau.
Parce qu'il y a des noms qu'on donne aux arbres. Comme le cèdre, on l'appelle cocon. Puis le tremble, au bas dans l'érable, on l'appelle tchigoukoum. Pourquoi tchigoukoum? Parce qu'il donne des bonbons. Pourquoi l'autre koukoum? Parce qu'il guérit les enfants. Il aide à la guérison, le cèdre. C'est comme ça, on donne des noms comme ça. Là. Ça, j'ai appris ça des aînés d'un peu partout quand je voyageais dans les communautés. Là. Parce que c'était pas juste les aînés, c'est que je demandais de compter des histoires, c'était quand j'en allais au Lac Rapide, à Picougane, un peu partout, là. Je m'assoyais avec eux autres, puis là, j'osais, là. Ils partaient à me compter des affaires, là.
Puis là, vous transmettez aussi à quelqu'un aujourd'hui?
Aujourd'hui, je le transmets soit à mes nièces, ou bien donc à des gens qui viennent me voir, là.
Comme nous.
Comme vous, comme Jacques aussi. Jacques, j'ai montré à faire du sirop, hein.
Ah oui?
Ouais, c'était mon premier, un de mes premiers élèves, ça. Parce que lui, il ne connaissait pas ça, lui non plus, là. Et là, j'enverrais Jacques là-bas, il serait capable de faire.
C'est vrai?
Oui, oui. Ouais. Mm-hmm. Le transmet à eux autres pour qu'ils puissent avoir une continuité de ça. Vous voyez là.
Oui.
Comment on appelle? Le squelettisme. Ça, c'est. Quand j'ai fait de l'enseignement ici, au niveau de la construction autrefois ici. Parce qu'avant, là, ils vivaient comme ça, avec des écorces. Ils faisaient le toit avec des écorces. Ensuite, ça a été le temps de prospecteur.
Mm-hmm.
Ensuite, nous autres, quand on était jeunes, on avait des planches. C'était des planches. Après ça, ça a été les cabanes à bois.
Mmh.
C'est toute l'historique de l'habitation ici. Là. Mmh. Puis autrefois, les Anishinabek, là, ils ne vivaient pas ici sur le site. Ils étaient au bord de l'eau, l'autre bord. Il y en avait à l'autre côté, il y en avait dans l'autre presqu'île. Parce que le monsieur, là, ma mère, il disait que lui, il avait une coque. Puis il courait après le monde. Fait que le monde, il voulait plus, il voulait pas s'en venir bien proche parce que le coq était là. Mais ça a été tout ça, l'habitation, là, j'ai tout expliqué ça aux enfants quand ils étaient venus. Mais il n'y a jamais personne qui a voulu dormir là-dedans.
Non. Quel est le futur d'ici, de la communauté, le futur, l'avenir de la communauté? Ou de cet endroit incroyable.
C'est sûr qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent. Ils vont venir ici une fois, une fin de semaine. Ils vont venir dormir. Ils retournent dimanche. Mais le monde, ils sont pris après leur travail. Hein. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans les communautés à ce temps. Puis, j'ai essayé d'inviter des jeunes à venir rester ici. Puis, je pense que là, de moins en moins, il va y avoir, de moins, comme là, matin, là, aujourd'hui, là, la cabane qui est là, là lui, il venait à chaque été. Tu vois, cette année, il n'est pas venu. Tu sais, ça me fait de la peine parce que je me dis que, bon, là, il avait dit qu'il viendrait à chaque été, là, il ne vient plus. Mais il y en a qui ont commencé quand même, depuis l'année passée. Il y a un monsieur qui a rénové sa cabane, il est venu rester. Puis, il y a des jeunes familles là, qui sont arrivées, là, qui ont décidé de rester pour l'été. Là, tu sais? Mais c'est plus des gens de ma communauté au Lac-Simon. Mais de Kitizagi qui sont proches, là, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. Là, ils ne viennent plus. Là. Ça va être ça va être perdu à un moment donné, je pense. Mais que l'église tombe, peut-être qu'il n'y aura plus personne ici. Il n'y a aucune idée de la survie de ça. Je ne pourrais pas garantir qu'elle va être là encore bien des années. Moi, quand je ne viendrai plus, c'est sûr que le monde ne viendra plus. Parce que juste là, là, je suis arrivée au mois de juillet. D'habitude, moi, j'arrive au mois de mai. Tout le temps de mai, juin, il n'y a pas personne qui est venu parce que je n'étais pas ici.
Ah oui?
Oui, puis un monsieur qui m'a appelé, j'ai dit, « Monique, quand est-ce que t'as beau Grand Lac? » J'ai dit, là, présentement, là, avec ma santé, là, j'ai beaucoup de rendez-vous, tout ça, j'ai des examens. J'ai dit, peut-être au mois de juillet. Il dit, tu pars bien tard cette année. J'ai dit, oui. J'ai dit, j'aurai pas toujours la santé, moi non plus, pour aller là-bas. Mais quand je vais être en bonne forme, je vais y aller. Fait que là, tu vois, il n'est pas arrivé, le monsieur, encore. Il est parti dans son territoire ancestral au lieu de s'en venir ici. Là. Lui, il vient chaque année, lui.
Puis vous restez combien de temps? De mai à septembre?
De mai. Moi, d'habitude, là, je venais au mois de mai, à la fin de mai jusqu'à la fin d'août.
C'est vraiment l'été.
Oui, oui, c'est vraiment l'été. Parce que ça, l'historique de ça, ici, ça a été ça. Tout le monde était dans leur territoire de trappe en hiver. Au printemps, ils arrivaient. Tout l'été, ils repartaient à l'automne dans leur territoire. Ça a été toujours comme ça. Puis moi, quand je vais, c'est comme ça. J'arrive au printemps, je repars à l'automne. C'est comme ça. C'est le Kitizagi qui sait, il suit vraiment son cours, son parcours qu'il avait déjà avant.
Quel est le conseil que vous pourriez donner aux jeunes aujourd'hui?
Moi, ce que je demande aux jeunes d'aujourd'hui, là, c'est vraiment de se réapproprier la langue, de parler la langue, de le comprendre, puis de l'enseigner aussi à leurs enfants.
Parce que l'identité passe par la langue.
Oui, ça part de là. Tout ce que tu vas entendre en forêt, là, ça vient de là, ça vient dans la langue. Puis aussi de pas oublier leur territoire ancestral, de retourner là-bas, aller voir c'est quoi l'histoire de leur territoire. Moi, c'est ça que je demande aux jeunes, c'est vraiment de retourner comme avant.
À la source.
Et de ne pas avoir peur. Mm-hmm. Ben, des jeunes, des fois, ils vont dire, ben, j'ai rien, moi, j'ai pas de temps, j'ai pas... Hein. Mm-hmm. Et des fois, moi, j'en invite, moi, j'ai tout mon matériel, mais le monde, ils viennent pas. Mm-hmm. Je les invite, des fois, de venir en forêt avec moi, là. Comme là, j'ai invité du monde de venir au Grand Lac. Il y en a déjà une qui vient de 3 étés, là. Ça commence tranquillement, là. Mais il ne faut pas lâcher, je pense.
C'est bien. Alors, transmettez le savoir. Merci beaucoup, Monique. Okay. Merci infiniment.